Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi, là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Baskerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène. Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, le frère commandant Solomon, membre de l'Ordre de la Ronde Hache, détient toujours Ur, la cité Mézoène. Mais les tensions montent de plus en plus au sein de sa propre armée, en attente depuis 2 mois des instructions de leur conseil de guerre ou de l'attaque de l'armée ennemie. 2 officiers Mézoens se sont présentés aux portes de la cité pour défier Solomon, lui qui a tué le roi Mézoen 3 mois plus tôt. Le commandant qui était chargé de la sécurité du défunt roi entend bien venger sa mort, mais Sœur Kellan, de l'Ordre de la Charité, a coupé court à leur rencontre en droguant l'eau qu'elle a tendue aux 2 officiers ennemis.
Chapitre 1. Une grande nouvelle.
Prochaine scène. Une scène intimiste.
Ah mon cochon.
Dis-moi, frère Solomon, tu as des appartements dans la cité d'Ur. As-tu réquisitionné le palais du vizir, le maire de la cité?
Non, pas du tout. Le vizir est toujours dans son palais avec sa famille, sa suite et tout ça. Ils sont confinés, évidemment, là. C'est pas ses gardes à lui qui sont à l'extérieur, c'est les miens. Mais non, j'ai aucunement... En fait, Solomon ne vient pas du tout en envahisseur, hein. Il vient plutôt en aider ce peuple. Et puis d'ailleurs, quand il est arrivé, la ville, les murs étaient quasiment en ruine. Il a pris la ville extrêmement facilement.
Et même soigner la fille du maire, ça a été une priorité. Sœur Kellan qui a réussi à la sauver de cette peste.
Mm-hmm.
Tu rentres dans tes appartements. Donc, j'imagine que tu avais réquisitionné genre une maison, une auberge, ou sachant que les auberges ne serviraient plus vraiment à grand-chose en étant une ville assiégée.
Oui, une ville à coupons.
Yes. Ça, c'est trois coupons.
Ça, c'est Québec 2021.
Ouais. Donne pas des idées à notre premier ministre. Là. Ouais. Écoute, Solomon, tu entres dans tes appartements. Aussitôt, une odeur de vanille t'accueille. Le parfum de Kélan. Elle est couchée au lit. En ouvrant la porte, tu vois sa silhouette sur le lit bouger, alors que tu défais le ceinturon et retiens ton marteau d'arme. Elle se relève lentement. Elle est nue, mais elle passe la couverture autour d'elle pour s'improviser un vêtement.
Solomon s'assit sur le bord du lit, dos à elle. On est toujours la même journée des deux derniers événements.
Oui, on est le soir. Les étoiles ont envahi le ciel. Et une fraîcheur vient apaiser tout le monde après cette chaude journée.
Donc, probablement que Solomon ressent toujours cette colère, cette frustration-là par rapport à Cavill et les lions d'or. Et aussi un peu de remords par rapport à Beryl. Grosse journée, donc il y en a beaucoup en tête. Il s'assoit sur le côté du lit, et bien que Kélan soit là, nu, Solomon est complètement pris par le tourbillon des événements.
Elle vient, alors que tu t'assois, elle fait le tour et vient dans ton dos pour entreprendre de te masser les épaules. Avant que nous traversions le détroit du Trident pour venir ici, tu m'avais demandé si je voulais quitter mon ordre pour te suivre. Que nous désertions tous les deux. J'avais alors répondu non. En fait, j'avais trop peur pour toi. Tu es le fils de l'ancien connétable, un grand seigneur de guerre. Et le roi, ainsi que le peuple du Dominion, voient en toi l'avenir militaire de notre royaume, Solomon. Jamais ils ne cesseront de nous traquer si nous nous sauvons. Non seulement l'ordre du bûcher sera après nous, l'Inquisition, mais tout le royaume. Et là, elle fait le tour et elle vient comme s'asseoir sur toi pour être face à toi. De ses jambes, elle emprisonne ta taille et son visage est près du tien. Ma vision a changé, Solomon. Depuis que nous sommes ici, c'est par des centaines de fois que tu as dû défendre ta vie. J'ai compris que servir le Dominion met autant ta vie en danger que si nous désertions. Et depuis 3 mois, en servant notre royaume, ici, tu as causé des milliers de morts, Solomon. Elle passe alors sa douce main sur le côté de ton visage. J'ai peur aussi pour ton âme. Pour toutes ces morts, pour tout ce sang versé. La fuite sera préférable à une vie de guerre et de mort.
Solomon pose ses mains sur sa taille, la regarde. Il ressent un énorme amour pour cette femme qui est l'opposé de lui. Alors que lui a été élevé pour tuer, elle a été élevé pour guérir. Par les ancêtres, si tu m'avais dit ces mots avant cette campagne, j'aurais sauté sur l'occasion, Kélan. Mais je crains qu'il est trop tard présentement pour s'enfuir. Le peuple de cette cité et les hommes qui m'ont suivi jusqu'ici dépendent de moi, dépendent de nous deux. On peut pas les abandonner. Mais si tu permets que... Laisse-moi le temps de terminer ce que l'on fait ici sur ces côtes et... Je te jure qu'une fois que... L'ordre sera donné de quitter, nous ne retournerons pas, toi et moi, au Dominion. Mais On peut pas laisser les hommes ainsi.
Oh, deux grosses promesses aujourd'hui, Solomon.
Oui, sauf que celle-là, c'est du solide.
Cette fois, c'est sérieux.
Ben, l'autre est vrai aussi. Donc, il a fait la promesse à l'autre aussitôt qu'on va être tous les deux en état de se battre. Ce duel va se faire, je te le promets. Et de toute façon, là, l'autre n'est pas en état de se battre. Solomon a vraiment l'intention de pas revenir au Dominion, de pas être considéré comme un héros à qui on adulte pour avoir fait couler le sang et pris des villes. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il y en a assez de cette vie-là. Sauf que là, présentement, des gens dépendent de lui. Autant les gens de la cité que ses hommes. Donc, il peut pas juste s'enfuir, mais c'est ce qu'il désire le plus au monde. Donc, cette promesse-là qu'il fait à Kaylan, qu'aussitôt qu'ils vont quitter les côtes, il part avec elle, c'est quelque chose qui vient... C'est un cri de l'âme.
Sous le seul éclairage de l'unique chandelle et de cette demi-lune que l'on perçoit par la fenêtre, entourée d'étoiles, tu perçois l'éclat d'une larme qui glisse lentement sur sa joue. Tu m'en fais la promesse, Solomon? Car maintenant, j'ai une bonne raison d'accepter ton invitation à tout quitter. Elle prend ta main, la monte à sa bouche, elle t'embrasse les doigts, avant de redescendre ta main jusqu'à son ventre. Aujourd'hui, nous sommes trois. Cache ta joie.
Oui. Mon esti. Alors, je pense au DM puis au coup de pute qu'il va me faire si j'ai un bébé. Ah, mon esti, tu rajoutes un bébé,
Carlis. Un bébé, c'est beau, un bébé. C'est des beaux souvenirs, des belles photos.
Ouais, mais moi, tout ce que je vois, c'est l'ampleur de la connerie, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ce bébé-là, mon petit? Solomon, donc, va prendre Kaylan dans ses bras et va l'embrasser fougueusement.
C'est à ce moment-là que l'on frappe à la porte vivement.
Je suis occupé, j'espère que c'est urgent.
Très urgent. Tu reconnais la voix de Frère Cain.
Solomon va rapidement se reboucler le ceinturon et entre-ouvrir la porte. Cain, qu'est-ce qui se passe?
Solomon, il y a trois bateaux au port. Ils voguent sous le pavillon du Dominion. Nous avons enfin du renfort du pays, Solomon. Je le savais que le roi Marcus ne nous oublierait pas. Après tout, tu es son champion.
Tu vois le visage de Cain changer alors qu'il renifle l'air.
Vanille, elle est ici! Dans ton appartement!
Là, il agrippe ton bras et te fait sortir. Cain est beaucoup plus petit que toi, mais c'est un petit nerfé et tu es surpris par la poigne qu'il serre sur ton bras pour t'arracher à tes appartements et te faire sortir dans le couloir.
Aurais-tu perdu la raison, frère? Notre ordre nous l'interdit. Tu as été choisi par les défunts qui enflamment ton marteau pour la gloire du Dominion. Ressaisis-toi, bon sang!
Et là, tu vois toute la charge de colère dans ses yeux.
Je ne voudrais pas être celui qui te destitue de ton grade pour hérésie, mon frère.
Tu sais que Cain, c'est le plus croyant. Croyant en les défunts, votre religion, vous priez les disparus et vous croyez que les êtres qui vous ont précédés veillent sur vous. Il est croyant aussi envers le règne de Marcus Hérimond XVII et tout ce qu'il a fait les 50 dernières années pour créer et fonder le Dominion. À 16 ans, le roi Marcus est parti d'un tout petit pays, Orléans, puis, grâce à son choix de nominer Malek comme premier connétable, chef de ses armées, il a gagné Florenza, puis la Brette, et ensuite les Monts Venteux. Cain idéalise carrément la famille royale, et l'ordre de la rondache, mais c'est toute sa vie.
Un frère peut chuter, avoir un passage plus sombre, mais là, ça doit s'arrêter maintenant, Solomon, maintenant!
Cain, mon frère, les frères de notre ordre font littéralement vivre les prostituées du Dominion. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que moi aussi j'aie du plaisir?
Il secoue la tête, puis... Ce n'est pas tous nos frères de un, et il y a une différence entre ce qui se passe entre toi et Sœur Kaylan et d'aller visiter des femmes de joie pour assouvir des besoins animaux. Nous reparlerons de cela plus tard, crois-moi. Allons voir ces navires au port. Cain descend rapidement les marches et disparaît dans les ombres qui noient la descente d'escalier. Et tu sais, Solomon, que Cain ne lâchera pas le morceau en ce qui concerne ta liaison avec Kaylan.
Chapitre 2. L'honneur ne se monnaie pas.
Tu vas te réveiller en cellule, Danny. Calme.
Êtes-vous prêt, messieurs?
Angie, c'est le rôle de ta vie qui s'en vient.
Ouais, il me mord les lèvres. Oh. Je m'en retiens pas à dire des niaiseries. Hein.
Ben, tu peux en dire, t'es là, hein? On va t'endurer.
Bon.
Cal, tu te réveilles dans une fraîcheur humide. Mur de pierre perlant de la sueur des profondeurs de la terre et une porte barrée de fer. Devant ta cellule, de l'autre côté du couloir, une autre cellule, semblable à la tienne, dans laquelle tu aperçois Bérine, endormie. Tout ce qu'il y a dans ta cellule, c'est une unique banquette, à peine assez large pour y dormir. Qu'est-ce qu'on voit de Cal alors que tu te réveilles avec un léger mal de tête?
Les premières secondes se passent. Cal émerge tranquillement des brumes d'un sommeil grandement aidé par les drogues de la sorcière blanche.
Tu vois, près de la grille, au pied de la porte, un plateau de victuailles, des fruits, du pain, un peu de fromage.
Après avoir constaté que, évidemment, ses armes et son armure et le peu d'équipement qu'il avait avec lui lors de sa traversée du désert n'étaient pas dans la cellule, Cal va s'approcher de la porte de la cellule et va essayer de... Ses premières pensées sont pour son commandant, son ami, son frère. Voir s'il peut apercevoir peut-être le juste un doux mouvement de sa poitrine pour confirmer qu'il respire toujours. Lorsqu'il est assuré que son ami était toujours en vie, il regarde les trucs qu'il y a dans le plateau. Et il va en choisir quelques-uns qui semble peut-être plus intègre.
Ce n'est pas un repas de prisonnier. Je te dirais que c'est un repas que tu ne serais pas gêné de servir à ta propre table, capitaine Kalshadim.
Eh bien, un peu par honte, il va seulement prendre ce qu'il y a, quelques trucs pour se redonner des forces, parce que le capitaine Shadim est trop pragmatique pour laisser sa fierté l'affaiblir. Donc il prend quelques trucs et probablement qu'au bout de quelques minutes, ben on va se rendre compte qu'il a avidement vidé l'assiette. Il a cherché peut-être quelque chose à boire non loin. Et au bout de quelques minutes, il va juste dire Commandant!
Tu vas entendre un soupir provenant de sa cellule. Tu vas le voir bouger, mais après s'immobiliser. Et c'est à ce moment-là que tu entends le grincement d'une porte, une lourde porte en fer. Deux silhouettes viennent se placer entre toi et la cellule de Bérine. Elles sont noircies par le contre-jour des torches qui fument derrière elles. L'une des silhouettes est féminine et elle traîne avec elle une agréable odeur de vanille. Tu reconnais cette odeur, tu l'avais perçue dans l'air chaud, devant les portes de la cité, la Dame Blanche. votre commandant est mort de fatigue. Il n'aurait pas tenu deux assauts contre le frère commandant Solomon. Tu reconnais également sa voix. Il y a un homme à côté d'elle. C'est lui qui va te traduire ces mots. Et pour le côté digeste de la scène, on va comme oublier un peu le traducteur, mais dites-vous qu'il y a toujours un traducteur entre vous. On m'a laissé entendre que vous étiez capitaine. Est-ce vrai? Demande-t-elle.
Que j'ai compris, vous êtes en quelque sorte une sorcière blanche.
Une guérisseuse. Le traducteur qui t'apporte la compréhension de ces mots à tes oreilles.
Bien. Sachez une chose, femme. Vous avez fait le choix pour le capitaine, mais ce n'était pas à vous de faire ce choix. Un homme est libre de faire ce choix. Et il est libre de choisir la façon dont il vit, la façon dont il meurt.
Et s'il est dans le tort, quel est votre nom, capitaine?
Appelle Cal. Cal Shedim.
Depuis quand est-il votre supérieur? Elle regarde vers la cellule de Bérin.
Tom n'est pas mon supérieur. Tom est un commandant. C'est un ami, c'est un frère. Mais en aucun temps il est supérieur à moi. Il y a une confiance entre nous. C'est un concept que vous, les infidèles venus d'ailleurs, venus envahir les terres, ne puissiez comprendre.
Au mot frère, tu vois qu'elle demande de faire répéter au traducteur. Elle hoche la tête. Si vous êtes attaché à lui, pourquoi l'avoir conduit jusqu'ici?
Et parce qu'il me l'a demandé. Parce que je ne pouvais le laisser seul.
Êtes-vous si prisonnier et gêné par vos œillères que vous en perdez la réalité de vue? La réalité, c'est que frère Solomon et votre commandant sont deux guerriers de talent. Le combat peut pencher d'un côté comme de l'autre.
Je ne vois pas d'épée ni d'arme à votre ceinture, vous la sorcière. Je vois des herbes, je vois de l'eau. Seulement que c'est un métier que vous pratiquez avec talent. Mais en aucun temps, je vous donne le pouvoir de juger des actions, de les miennes ou du commandant. Gardez ces mots futiles dans votre bouche. Vous n'avez aucun droit de questionner mon honneur ou mon intelligence. Si c'est ces mots que vous voulez dire à moi, eh bien, partez.
Elle avance d'un pas vers le grillage de la porte. Je tâcherai de garder mes mots, mais vous gardez une image en tête, capitaine Cal. L'image de frère Solomon qui explose la tête de votre commandant. Un scénario tout aussi probable que sa victoire. Gardez bien en tête cette image et dites-moi que vous êtes encore enthousiaste à le conduire jusqu'ici. Lui que vous appelez votre frère, c'était une mort possible. Le réalisez-vous? Êtes-vous si obtus? Êtes-vous si confiant de vous?
Commandant, s'il avait pas voulu ici, s'il voulait éviter de mourir au combat, il aurait choisi de dresser les chevaux et de pas devenir un guerrier. Il a fait ses choix. Il décide. C'est son honneur à lui. Et c'est la seule chose que personne ne peut lui enlever. C'est lui qui décide de son honneur. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Ce n'est pas un concept que vous comprenez. Eh bien, oui. S'il faut que j'aie traversé le désert pour le voir mourir, bien soit. Il n'y a rien de plus à dire. Ce n'est ni à moi, ni à vous de le questionner. C'est à Dieu de décider. Mais sachez une chose. Le commandant n'est pas un guerrier novice. Ce n'est pas un débutant. Alors votre ami, le chevalier, peut très bien aussi rejoindre son créateur. Ne soyez pas trop confiante. Et vous êtes une femme. En quoi ça vous intéresse?
Là, elle approche vraiment collée de cette porte de fer. Et alors que sa silhouette était noircie par le contre-jour des torches derrière elle, En s'approchant, tu peux voir sur son visage des larmes. Vous me dites qu'entre l'honneur et la vie, vous choisissez l'honneur.
Non. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on est on choisit la voie des armes, on choisit les deux, on ne choisit aucun.
Capitaine Cal, vous allez mourir ici. Je suis venu vous proposer quelque chose. Si vous me faites la promesse que vous et votre commandant disparaissez avec votre satanée vengeance, sans demander votre reste, je vous libérerai. Et elle recule de deux pas. Je vous offre la vie, capitaine Cal Shadid.
Est-ce la charité qui vous fait parler ou la peur?
La peur? Vous êtes dans les entrailles d'une ville avec 5000 soldats du Dominion. Le commandant Solomon ne tient pas à l'aise tous ses officiers. Il y a de fortes têtes ici. À tout moment, d'autres hommes pourraient venir ici pour vous exécuter, que par pur plaisir, que par manque d'action. Voilà 2 mois qu'ils sont enfermés ici, à l'attente de votre armée qui ne vient pas.
Ces gens que vous appelez vos frères?
Je n'ai pas de frères ici.
Non. Vous avez... Ce n'est que le peuple que vous me décrivez, c'est des animaux.
Certains, oui. Pas tous, capitaine. La guerre a cette faculté de transformer des fois d'honorables gens en chiens de guerre.
Eh bien, c'est aux officiers et aux chefs de s'assurer que les gens, sous leur commandement, respectent les guerriers en face d'eux. Et que la guerre reste honorable. Et si vos officiers ne sont pas à la hauteur de cette tâche, ils ne méritent pas de commander des hommes.
Ah, tu as parlé de suivre les ordres, Cal. Et tu vas sans doute réaliser que Sœur Kellan possède une finesse d'esprit et qu'elle n'est pas dupe. Elle plonge son regard dans le tien et dit... Dites-moi, est-ce en suivant les ordres de vos supérieurs que vous avez commis l'imprudence de vous présenter seulement 2 aux portes de la cité dure? Vous devriez commencer par suivre vos propres conseils, capitaine Cal Shadim. Je vous laisse 24 heures pour réfléchir à ma proposition. Au-delà de cela, vous serez livré à vous-même. J'en ai bien peur. J'aurai tout fait pour sauver 2 vies. Est-ce que tu fais quelque chose, Cal?
Je fais un salut traditionnel en me touchant le front et la poitrine. Je vais m'asseoir. Au bout de quelques secondes, je me mets à genoux au sol et je me mets à prier. Dans une situation comme ça, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Parce qu'en fait, le débat est clair. Est-ce que je vais priver un homme de son droit de recouvrer son honneur au risque de sauver sa vie? Mais ça voudrait quoi la vie sans honneur pour un commandant comme Beryn?
Et oui, effectivement, vous êtes des hommes de fierté. Ce qu'avait sous-estimé le Dominion et le roi Marcus Irimonde en venant ici sur vos terres, il ne voyait en vous que des commerçants à la tête de la plus grande flotte marchande, et ils se sont heurtés à de farouches et fiers guerriers, comme Cal en fait preuve en ce moment. Comme elle est venue, calme et silencieuse, la sœur s'en retourne vers la porte, suivie du traducteur. Avant de la franchir, elle te lance un dernier regard, rempli d'espoir que tu changes d'idée. Cartel et sa nature.
Intransigeant Cal Shadim.
Ouais, ouais, fierté, c'est bon, c'est bon. Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Chapitre 3, le sacrifice de soi.
Ce n'étaient pas 3 navires amenant des vives ou des troupes fraîches qui ont accosté sur vos quais. Tu t'en doutais peut-être, Solomon, car 3 bateaux, c'est bien peu.
Vous vous dirigez vers un entrepôt sur les quais. Bien sûr, le bâtiment est vide étant donné que vous êtes coupé du monde depuis plus de 2 mois. Par les grandes portes ouvertes du bâtiment, tu aperçois une table avec un mésoïn qui est assis. 2 chaises vides devant lui. Tu marches en direction des portes, côte à côte avec un homme que tu n'avais pas vu depuis ton départ de la capitale du Dominion, Blanchelys. L'un des bateaux a conduit ici Lord Varicrom. Lord Varicrom, c'est le ministre des Affaires étrangères du Dominion.
J'aurais préféré vous revoir en d'autres circonstances, frère Solomon. Mais vous ne pouvez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Vous auriez dû écouter la princesse Lagertha. La fille du roi est avisée. Ses conseils étaient pleins de sagesse et je les appuyais. Une folie que cette invasion de la côte de Mézo.
Je suis un peu plus d'accord, ministre, mais il faut comprendre qu'on ne m'a pas vraiment laissé le choix. Son père a des arguments massus.
Je sais. Mais diverses oreilles m'ont chuchoté qu'il avait menacé votre père et sa nouvelle épouse et votre demi-sœur. J'en suis navré. Nous connaissons tous les deux les penchants du roi Marcus.
Il s'arrête avant que vous alliez plus avant franchir les grandes portes de cet entrepôt.
Avant de vous asseoir devant l'ambassadeur Mézoïn, Jacarim, vous devez lire ceci. Les négociations furent longues et ardues.
Il te tend un rouleau cacheté du sceau royal.
Solomon va l'ouvrir rageusement, sans le briser. Tu sais, il va juste, il commence à en avoir plein le cul, là, la frustration de la journée s'accumule, puis surtout que la journée semble pas finir. Et donc, Solomon va ouvrir le sceau rapidement et il va commencer à lire les lignes.
Tu défais le rouleau, il y a une bague qui tombe dans ta main. Et tu vois immédiatement que la lettre a été signée de la main de la princesse Lagertha, la fille du roi. Tu ouvres la lettre?
Oui, d'ailleurs, cet anneau, est-ce que je le reconnais?
Pas du tout.
D'accord.
Je te dirais, c'est comme des roses gravées, moulées. C'est une bague en or.
D'accord.
Tu commences à lire. Très cher Solomon, c'est le cœur rempli de chagrin, plume et papier devant moi, que je te fais parvenir ces dernières nouvelles du Dominion. Mon père, notre roi, est mort. Suite à une longue agonie face à laquelle les plus grands guérisseurs de l'Ordre de la Charité se sont révélés impuissants, ainsi que Démosthène, son conseiller en ténébreur, il a rendu l'âme dans son sommeil. J'aimerais dire que sa mort fut paisible, mais il n'en fut rien. Ses dernières nuits ont été hantées de regrets, à gémir et implorer le pardon. Pardon à tous ceux qu'il avait envoyés à la guerre pour un avenir moins que certain, pour le prestige de notre maison et son héritage. J'ai tenté de le prévenir que les Mézoïns se montreraient plus combatifs et coriaces qu'ils le jugeaient. Comme j'ai tenté de te convaincre de lui refuser ton épée, en vain. Par 2 fois tu m'as repoussé, Solomon, me refusant ton cœur et ensuite me refusant ton amitié pour freiner les ambitions irraisonnées de mon père. De ma tour d'ivoire, j'ai guetté ton départ, les joues inondées de larmes. Pour toi, pour tous ces hommes quittant leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, leur patrie. Cette guerre était une erreur. Son investigateur n'est plus. En tant que reine régente, jusqu'au retour de mon frère Joac, oui, il est en vie, j'ai négocié le rapatriement de nos troupes auprès de l'ambassadeur Mézoïn Jacarim. C'est le retour au pays de 19 000 hommes qui est en jeu, Solomon. Solomon, nos hommes méritent de revenir dans leur foyer, auprès de leur famille. Azim, le nouveau roi de la côte de Mézo, a exigé une rançon que je juge raisonnable et un paiement de guerre tout aussi correct. Il a cependant une exigence pour le retour de ton nouveau roi, mon frère, et pour la libération de milliers de prisonniers et le rapatriement de tous tes hommes emmurés à Ur. Il te veut, toi. Je ne doute pas de ton cœur, ni de ton honneur. Alors j'ai promis à l'ambassadeur Jakarim que tu coopérerais. 60 navires pour rapatrier tous tes hommes qui ont vaillamment combattu. Sur le parchemin, il semble y avoir des taches de larmes qui ont été laissées. J'aurais tellement souhaité que les choses se déroulent autrement. Une bague accompagne cette missive. Pas de signature signifiant ton acceptation des conditions, pas de parole donnée non plus, mais simplement la bague à ton doigt et le représentant Maison 1 comprendra. Ton arrestation se fera après le départ de tes hommes pour la mer. Que les défunts te gardent, Solomon, mon Solomon. Pour moi, tu seras toujours mon prince, même si ton cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre, je le sais. Reine régente Lagertha Irimonde 17. Pour toi, je reste simplement Lagertha. Que fais-tu?
Solomon va enfiler la bague parce que c'est sûr qu'il passera jamais sa vie avant celle de tous ses hommes. Il l'a déjà prouvé souvent par le passé. Va se tourner vers le ministre après avoir mis la bague et ministre Varikrom, vous pouvez passer un simple message à la princesse Lagertha pour moi?
Certainement.
Dites-lui simplement que je ne lui en veux pas et qu'elle a bien fait.
Il accepte, il reçoit tes paroles avec un hochement de tête bien bas. Signe de respect et démontrant qu'il admire ainsi ta décision de sacrifier toi pour tes 5000 hommes et les autres prisonniers qui ont été faits à la cité de Nippur et Uruk. On a un cote. Tu es à cette table, assis devant l'ambassadeur Jakarim.
Enfin! C'en est terminé du Kral Katali.
Non, c'est pas ça, c'est pas Katali.
Enfin! Enfin!
Je vais-tu réussir?
Enfin! Enfin, enfin! Enfin! C'en est terminé du Kral Katili, tueur de roi. N'ayez crainte, aucun mal ne te sera fait lors de ton arrestation. Nous ne sommes pas des sauvages comme vous. Salue tes hommes. Souhaite-leur bon retour au pays. Et dirige-toi après sur la plage à l'ouest. Et par le dieu Anki, j'espère ne plus jamais devoir poser mes yeux sur toi.
Que fait Solomon? Moi,
je crois pas que Solomon ait quoi que ce soit à ajouter. Alors, à part si ça peut soulager la douleur de votre peuple, ainsi soit-il.
Nous sortons maintenant de l'enfer après 3 mois. Que les démons vous emportent, vous et votre dominion.
Chapitre 4. Sombre destin.
Solomon, toute la journée, tu as supervisé le départ de tes hommes. On voit le dernier navire se détacher du quai après avoir largué les amarres. Qu'as-tu inventé à tes hommes et surtout tes frères capitaines pour ne pas embarquer avec eux?
Je leur ai dit tout simplement que la princesse Lagertha a réussi à négocier notre rapatriement, que malheureusement, l'opération sur les côtes est un échec, mais qu'elle a réussi à négocier notre retour en échange d'un cessez-le-combat. Et que je restais jusqu'à la fin pour m'assurer que tout le monde est bien parti. Et que, tout simplement, je devais attendre un officiel pour partir avec lui un bateau. Et probablement que j'ai confié Malek à Sœur Kélan, qui a pris un bateau auparavant, et je lui ai dit tout simplement de s'occuper de mon cheval, qu'on allait se revoir de l'autre côté du détroit. Parce que même à Sœur Kélan, j'ai pas dit la vérité, parce que je savais qu'elle ferait tout pour ou pour rester avec moi, ou pour empêcher ça.
Donc, tes derniers moments avec Kélan ont été, je dirais, décorés de mensonges.
Oui, tout à fait. Parce que Solomon connaît Sœur Kélan et elle aurait tout fait pour en... Et la dernière chose que Solomon veut, c'est qu'il lui arrive quoi que ce soit, parce que tout ce qui lui reste maintenant, qui sait que ses jours sont comptés... C'est l'espoir qu'elle amène avec elle dans son ventre.
Ouf, ouais. Ça va pas être facile de se laisser sur des moments pareils où...
Non, hein? D'ailleurs, il est éveillé, hein?
Ouais.
Il est témoin, là!
Ouais, là, tu vas pouvoir le crier sur tous les toits. Le frère qui va être le plus anéanti de cette décision-là, de cette négociation et de la mort de Marcus Sirimonde XVII après 53 ans de règne, c'est Caïn. C'est un Caïn anéanti que tu vas voir, incapable de diriger les troupes. Ça va être un homme refermé sur lui-même et vraiment détruit que tu vas saluer. Une fois tous tes hommes partis, tu te diriges vers la plage?
Vers l'ouest, oui.
Effectivement. Très bien. Tu marches vers l'endroit qu'on t'a indiqué, Solomon. Mm. Le jour se résume, ne se résume plus qu'à une cicatrice rouge sur la ligne d'horizon qui sépare l'océan du ciel. La mer semble faite de feu, tant les teintes d'oranger épousent les vagues. Et des silhouettes noires d'une quarantaine de cavaliers se superposent à la noirceur du jour qui meurt. Arrivé près de toi, c'est cinq d'entre eux qui se détachent des autres pour avancer un peu plus. Immédiatement, tu ressens leur présence de ces cinq cavaliers-là. Non pas physiquement seulement, mais par l'énergie qui émane d'eux. Ils sont très puissants dans la ténèbre, la magie. À leurs habits et leur prestance, nul doute possible, ils occupent sans doute de hautes fonctions. Et ils viennent de différentes nations des terres de Babel. On va les voir ici. Comme ceci. Et comme pour confirmer tes pensées, tu reconnais celui du centre, qui est pas au centre sur l'image, pardon, qui est Démosthène, qui met pied à terre, le conseiller de ton défunt roi, Marcus Irimonde XVII. L'un des hommes les plus influents du Dominion, sinon le plus. C'était vraiment le chuchoteur à l'oreille du roi. Il avance vers toi, Solomon. Tendez vos bras, frère Solomon.
Demosthène, j'espère que vous êtes ici pour vous assurer que je me rende bien, et j'espère que ce n'est pas une trahison de votre part.
Soyez-en assuré.
Je tends mes bras.
Il te met des fers au poignet. Et immédiatement, tu la ressens. La coupure. Ton lien avec la ténèbre n'est plus. Ce lien que tu as depuis l'âge de 13 ans, alors que tu étais dans la librairie de l'Ordre de la Rondache, que tu as découvert ce livre, cette reliure de cuivre, et que tu as découvert un médaillon incrusté dans le cuir, et que tu as arraché, et qu'un défunt t'est apparu, Caliban, et qui t'a initié à l'art de la ténèbre, tu as toujours eu ce lien avec la magie. Et pour la première fois, depuis 6 ans, ce lien s'est évaporé. C'est un peu comme si on venait de te couper un membre.
Je suis désolé, frère Solomon, mais partout sur les terres de Babel, loin voyant, augure, voyante, devin et prophète, tous vous ont vu dans les flammes, dans l'eau et autres éléments de lecture de l'avenir. Tous ont vu en vous le responsable de la seconde destruction de Babel. Amenez-le!
Et là, tu vois des cavaliers qui ont mis pied à terre t'encercler et te prendre. Et tu reconnais des soldats mésoïens qui te portent vers un cheval. Solomon, question. Avant qu'on termine ici, as-tu l'impression d'avoir été trahi ou sacrifié? Lord Varicron, qui devait être au courant de tout ça, lui qui a traversé le détroit du Trident avec l'ambassadeur Mésoïn, la princesse Lagertha aussi, si son premier conseiller, Demosthène, est ici. Quelles sont tes impressions de voir 5 puissant enténébreur venir ainsi t'accuser d'être un futur destructeur de monde?
Je pense que... Écoute... Fort probable que il n'y avait pas juste derrière dans les intentions de m'échanger contre le rapatriement de toutes les troupes. Ça fait sens en même temps parce que je sais que tout le peuple de la côte désire ma mort plus que tout. J'en ai été témoin de nombreuses reprises. Donc oui, ça, je crois qu'ils ont pu dealer mon échange, mais qu'en même temps, à quelque part, peut-être que ça les arrange. Mais Solomon, à quelque part, au fond de lui, il sent que peut-être que Lagertha est quand même en aide dans ses sentiments. Mais Solomon reste intimement convaincu que ces 5 enténébreurs-là tirent des ficelles à quelque part et sont, probablement responsables de l'emprisonnement de Solomon, mais peut-être aussi de l'échec des troupes sur la côte.
Oh, OK. Ça cogite dans l'esprit de frère Solomon.
Oui, puis je pense qu'il va avoir le temps de cogiter encore pas mal plus que ça.
Ah, c'est ton impression?
Oui, hein?
Ouais, je sais pas. Ils vont te conduire dans les reins d'un ancien colisée. Hein, le défunt roi Abide le Bon ayant aboli l'esclavage et les jeux de gladiateurs. Plusieurs soldats d'élite mésoïens te garderont nuit et jour, alors que tu seras enfermé dans une minuscule cellule. OK. Combien de temps crois-tu que tu vas croupir, emprisonné dans ces ruines, Solomon?
Vu la haine que tout le monde me porte, moi, je dirais pas tellement longtemps, parce qu'ils vont sûrement se servir de ma mort tel un spectacle incroyable.
Je suis désolé de te désappointer, mais tu vas...
Tu vas croupir dans ta nouvelle cellule, dans ta minuscule cellule, pas moins de 4 ans. Tu n'en sortiras pas indemne, frère Solomon, ni mentalement, ni physiquement. Là, c'est le temps de chialer.
T'as tué mon bonhomme!